La différence.
15h et bientôt 4 minutes sur France Inter. Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Oui, bonjour Daniel. Je viens de voir la photo des trois candidats en Angleterre. Là. Donc il y a un conservateur, un libéral, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas terrible les trois candidats qu'ils ont. Ils sont pas sortis de la merde, nos pauvres amis anglais, avec des candidats comme ça. Une fausse gauche et deux vraies droites. Voilà ce qu'ils ont comme choix. C'est pas terrible, terrible quand même. Hein. Il n'y a pas un front de gauche là-bas, il n'y a pas quelque chose qui peut changer la donne. Parce que quand on voit que des pauvres, des papis sont obligés de travailler à 70 ans à McDonald's pour survivre, quand on voit qu'on leur file la retraite à 67 ans avec 636 euros de retraite, c'est tout. Ils ne peuvent plus se soigner, ils sont obligés de venir en France pour se soigner, nos pauvres amis anglais, enfin par certains, bien sûr, les travailleurs, tout ça, ils se plaignent pas là-bas. Mais enfin, je pense qu'il y a quand même, le peuple, il va quand même se réveiller, se révolter quand même là-bas dans ce pays. Hein. Ils sont dans la merde, ils vont droit dans le mur et ils continuent. Et alors on leur propose que trois candidats à la con, là. C'est n'importe quoi, ces pauvres anglais, là. Il faut qu'ils se révoltent, qu'ils se bougent, qu'ils s'organisent, merde. Allez, réveillez-vous. Go, go, go. Peuple anglais, là, merde.
Vous savez ce que c'est la différence entre un riche et un pauvre, ou si vous préférez, entre un exploiteur et un exploité. Un riche, quand on voit qu'il va tomber, on lui donne un parachute doré pour amortir la chute, pour pas qu'il se fasse mal. Tandis qu'un pauvre, on lui donne un filet de sécurité, mais que quand il est déjà tombé, et en plus, il faut pas qu'il le garde trop longtemps. Il faut qu'il se dépêche de le rendre. Il faut qu'il accepte n'importe quoi, pour pas abuser de l'argent public. Donc c'est un filet provisoire. Voilà, c'est ça la différence. C'est ça la justice libérale.
Salut les auditeurs modestes et géniaux de l'Isère. Le rendez-vous du repère de Saint-Bernard-du-Touvet aura lieu ce soir, vendredi, comme d'habitude, au Sabot des Muses à 18h30. Venez avec un texte, un conte, un écrit, etc., pouvant déboucher sur une discussion. On vous attend.
Bonjour l'équipe de Daniel Mermet. Je viens d'écouter votre émission. Je suis père de trois enfants. Le plus grand va avoir 14 ans bientôt. Autant vous dire que ça brasse un petit peu quand même. Je suis moi-même ancien enfant battu. J'ai eu le temps pendant une heure de me souvenir de certaines choses également. Une grande question cependant me reste à l'esprit concernant mes propres enfants. Et la question est la suivante. Comment peut-on faire que nos enfants soient des gens bien plus tard sans avoir connu un petit peu de malheur aujourd'hui? Voilà. Donc je pense que ce monsieur à travers ses peintures doit aujourd'hui être quand même plus heureux. S'il n'avait pas autant souffert et vécu toutes ces atrocités, serait-il la personne qu'il est aujourd'hui, ou une personne des plus anonymes, voire pire que ça, une mauvaise personne? Voilà. Bonne journée et on vous écoute, à bientôt.
Salut Daniel, c'est Yvan à l'appareil de l'Ain. Écoute, je t'appelle juste parce qu'il y a un petit truc qui me fait marrer là. Je suis en train de regarder la télé et je vois ces nouvelles et ce volcan en Islande là. Et je pense aux mecs de la CGT et de Sud qui demain vont aller négocier un petit accord ou quoi que ce soit avec la direction de la SNCF. Et je me dis que pour le rapport de force, eh ben c'est pas plus mal de se dire que finalement tous les vols sont suspendus sur tous les aéroports de Paris. Et je me dis que aujourd'hui ils doivent avoir le sourire et que cette fois-ci la nature est avec eux. Alors allez-y les petits gars et bonne négociation demain.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Nous, on est à Okinawa. Okinawa, au sud du Japon, si vous regardez la carte. Qu'est-ce qu'on fait là, Okinawa? On s'intéresse aux habitants de cette île et des petites villes qui sont autour pour au moins deux raisons. La première, c'est que les habitants de ces îles-là ont été colonisés par les Japonais. Ils en conçoivent un certain dépit et un certain goût de l'indépendance, en tous les cas un certain goût de la lutte et la défense aussi de leur culture, de leur musique notamment. Ça, c'est ce qui les caractérise. Et la deuxième chose, surtout qui les caractérise, c'est bien évidemment la bataille d'Okinawa, qui a duré 84 jours entre le 1er avril et le 23 juin 1945. 200 000 morts en 84 jours, dont la moitié était la population locale, la population d'Okinawa. Récemment, on s'est intéressé à la soumission à l'autorité à la télévision. Vous vous souvenez de cette soirée extraordinaire avec un grand tintamarre où l'on a revisité l'expérience de Milgram et où l'on a découvert la soumission à l'autorité. Évidemment, la soumission à l'autorité n'a rien de nouveau. Et ici, à Okinawa, il y a eu une forme particulièrement pathétique de cette soumission à l'autorité au cours de cette bataille d'Okinawa. L'armée japonaise avait ordonné à la population, aux gens, qu'ils se suicident plutôt que de se rendre. C'est le suicide collectif forcé qui a été mis en place. Et 350 personnes ont été victimes de ce suicide collectif forcé. Je l'ai évoqué hier, on a recueilli des témoignages, enfin un témoignage d'un survivant qui lui-même a tué de ses propres mains des membres de sa famille. Et il y a eu un épisode particulièrement pathétique dans une grotte où des gens se sont réfugiés. 84 personnes sont mortes là en essayant de s'asphyxier elles-mêmes en faisant du feu et de la fumée avec des matelas, avec des tissus et en s'entretuant avec des couteaux, des instruments divers et variés pour mourir avant d'être pris. C'est un cas particulièrement violent de soumission à l'autorité. Aujourd'hui, les habitants d'Okinawa luttent contre la présence des bases militaires américaines sur le Ryūl. Il y a 37 bases américaines sur cette île. 30% du territoire est occupé par des bases militaires, notamment aériennes, qui évidemment engendrent toutes sortes de nuisances. Et les habitants, à 65-70%, sont opposés à la présence de ces bases et luttent désespérément pour le déplacement de ces bases américaines qui donc sont là depuis 65 ans, depuis le 23 juin 1945. Pendant ce temps-là, dans la base où j'y suis, on continue aujourd'hui avec Pascal Audin, les choses qu'on peut imaginer de faire avec après. Vous vous souvenez de lui, on le retrouve aujourd'hui jusqu'à 16h dans la base où j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous. C'était pour vous informer du repère du 14e qui aura lieu donc dimanche 18, ce dimanche-là, à 20h au Magique, 42 rue de Gercovie, métro Plaisance, bus 62, arrêt hôpital Saint-Joseph. Nous aurons la présence d'un économiste, Olivier Lacoste. Voilà. Bisous, donc à dimanche, à 20h, 42 rue de Gercovie.
Salut Daniel et tous les autres, donc les auditeurs. Ici c'est voilà le collectif Un autre 104 est possible. Le 104 c'est un établissement artistique de la ville de Paris en France, dans le 19e arrondissement. C'est 40 000 mètres carrés, c'est un lieu qui devrait être plein de vie, d'hospitalité. C'est un lieu en grande partie vide. Ça coûte beaucoup d'argent, 8 millions d'euros par an de subvention et déjà un premier déficit, des directeurs qui sont partis. Donc on s'est saisi de cette question citoyenne pour dire voilà, un autre 104 est possible et on invite demain samedi à partir de midi et jusqu'à pas d'heure à un grand pique-nique citoyen au 104. Donc on n'est pas chez nous mais on invite tout le monde à porter son plateau repas, sandwich, chant, danse, musique. On fait passer un petit moment en direct plutôt à partir de 13h mais enfin. Et même la météo est avec nous. Allez, salut à tout le monde.
Salut à toute l'équipe, c'est Domi dans les PO. Ben voilà, je voulais vous lire un petit article que je viens de trouver dans Bella Ciao qui concerne la baronne du MEDEF. Donc c'est intitulé « Grève chez les Parisos ». Depuis le 7 avril à 12h, le site de la MVM dans les Vosges, qui appartient à la famille Parisos, est en grève. Les salariés demandent une revalorisation salariale de 75 euros pour tous. Il faut noter que depuis 10 ans, ces salariés ont eu 6 années de gel des salaires et que depuis que l'entreprise s'est redressée et qui a permis de sauver 461 emplois en 2008, les salariés veulent avoir leur juste rattrapage des salaires, eux qui gagnent en moyenne 1100 euros net par mois. Pour se faire entendre, plus de la moitié du personnel est toujours en grève. Ça fait une semaine aujourd'hui. On considère que les Parisos sont assez riches et qu'ils peuvent en donner un petit peu à leurs salariés. Une chose est sûre, on est très déterminés. Bah voilà, chez Madame Parisot aussi, il y a des grévistes. Allez, bon courage à tout le monde. La lutte continue.
Oui, bonjour, c'est Marc, éleveur de bovins en montagne dans les Pyrénées-Orientales. Ce matin, je suis un peu effondré. Parce que jusqu'à présent, on m'avait expliqué que mes vaches polluaient plus qu'un 4x4. Récemment, à service public, des vétérinaires ont expliqué que les chiens polluaient plus qu'un 4x4. Et là, je m'aperçois qu'il y a un volcan qui souffle et finalement, la Terre pollue plus qu'un 4x4. Je suis un peu désemparé. Mais par contre, je me rappelle quand même qu'il y a eu un accident d'avion il y a longtemps dans la cordillère des Andes. Et les survivants, ils ont pas bouffé l'avion. Ils ont bouffé quand même des passagers. Alors je sais pas trop quoi faire, mais peut-être notre président a raison, sans ça, d'arrêter les mesures agro-environnementales. Peut-être que la Terre est plus polluante que tout le reste. Alors faudra peut-être tout bétonner, se mettre à l'abri de cette entité malsaine. Et finalement, c'est pas labourage et pâturage qui sont les deux mamelles de la France, ça sera bétonnage et boursicotage. Ben, continuons à réfléchir et restons modestes, hein, parce que là, ça va être dur d'être génial, hein, maintenant. Allez, ciao.
Il y a des moments tristes, il y a des moments heureux. Tu fais quelqu'un sur toi-même, hein. Voilà, c'est ça. Tu t'en rends pas compte. Une joie de vivre, ça, de peindre. Il y a même de l'eau, puis un bout de pain, puis il va te démerder toi. Là, ils m'ont battu, là. Bah là, la rouste. Quel est le truc, vous ne savez pas. C'est resté en moi-même. J'ai pas eu de chance avec mes parents, j'ai pas eu de chance avec mon fils.
Mais vous avez un fils ?
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, avec Anne Rioux et Pascal Audin. Les choses qu'on peut imaginer de faire avec après.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, je fais un reportage sur Pascal.
C'est un monsieur très sympathique dans le coin. On l'aime beaucoup dans le quartier.
Elle aime bien ce que je fais.
Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors, dès qu'il a une nouvelle toile, allez, il vient me montrer. On déplie dans le magasin. C'est très sympa. Il a été tout de suite très sympathique, pas envahissant non plus. C'est pourquoi il a été bien adapté tout de suite.
Et à la fois, il a une façade qui est tellement bariolée, qui est tellement... Enfin, ce sont des œuvres... que ça détonne un peu sur cette petite place de village.
Oui, effectivement, au tout début, on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce marginal. Au début, là, les petites inscriptions sur les volets, ça faisait drôle. On s'est dit mais qui est là? Ben c'est des dessins qui nous faisaient sur les volets quand même, hein, sur le coup. On s'est dit attends, les messieurs quand ils attendent dans mon magasin, ils disent mais qui c'est ce monsieur qui fait des choses comme ça. Ouais. En fait, quand il a déployé tous les jours un petit peu plus, c'était rigolo, c'est coloré et puis la maison mérite bien parce que c'est une maison fermée. Et tristounette. Ouais. Après tout, ça a apporté un petit peu de lumière dans le coin.
Un bel atelier en plus.
Et physiquement ?
Alors physiquement, il le sait très bien. Aujourd'hui, j'aime pas du tout. J'ai horreur de cette barbe.
Ah.
Donc les cheveux et tout pas coupés. Bon, c'est l'artiste.
C'est le marginal.
C'est le marginal.
Merci.
Il faut y aller.
Ça a son boulot, moi aussi.
Au revoir.
Voilà, monsieur de la déchetterie, là, bon.
Bonjour.
Comment
allez-vous? Voilà.
Ça va bien.
J'aime bien aller fouiller là-dedans, un petit peu.
Vous êtes obligé de descendre là-dedans?
Je suis bien obligé.
Et ben voilà, nous voilà à nouveau à Jancey, dans cette petite ville de Jancey, avec Pascal Audin et ses voisins, sa voisine là, qui trouve sympa comme tout, le bistrot d'en face, ça se passe bien, ça se passe bien. Le marginal n'est pas très marginal, puisqu'il est tout à fait intégré, et pourtant, il vient de loin, il en a vu, il nous a raconté un peu quelle fut sa vie d'enfant du placard, les horreurs qu'il a vécues, qu'il a connues, les souffrances dans l'enfance, etc. Et ben voilà, tout ça s'est retourné jusqu'à peindre, jusqu'à là, comme il est en train de le faire dans cette déchetterie, aller chercher, cueillir, ramasser les matériaux de ses sculptures, de ses peintures et de ses collections aussi. Parce que Pascal est un sacré collectionneur, on a vu sa collection d'ours, il collectionne d'ours, il en a plus de 3000, il collectionne les sifflets, les boîtes à musique, les boules de neige, les clés, les voitures miniatures, les boules de thé, les pipes, les signes, les pièces de monnaie, les objets pour qu'on plante dans les bûches de Noël, etc. Et puis qu'il collectionne tout ça, c'est tout un monde, un univers. Vous pouvez aller le voir, hein. Vous pouvez tout à fait aller le voir à Jancey, c'est en dessous de Poitiers, à 25 km en dessous de Poitiers. C'est 15 places du marché de Jancey. Visite sur simple demande. Voilà, c'est pas compliqué, c'est pas fermé, c'est pas mystérieux, c'est tout à fait ouvert et c'est un artiste. Alors, évidemment, le mot artiste a des sens différents, hein. On a parlé hier de Jean Dubuffet. Pascal Audin se définit lui-même comme un peintre naïf. Il dit, oh non, l'art brut, bof. Non, dites que je suis un peintre naïf. Et il se compare à Gaston Chessac, qu'on a évoqué, qu'il évoquera à nouveau aujourd'hui. Et c'est une occasion, évidemment, de penser à Jean Dubuffet. J'en ai parlé hier. Et je vous recommande vivement la lecture d'un livre de Jean Dubuffet qui s'intitule Asphyxiante culture. Et où Dubuffet s'en prend à la culture officielle, à la culture intimidante, à la culture du haut, à la culture du Mirador. Et il dit ceci qui va bien pour commencer cette heure avec Pascal Audin. Les intellectuels se recrutent dans les rangs de la caste dominante ou de ceux qui aspirent à s'y insérer. L'intellectuel, l'artiste, prend en effet titre qui lui donne péri avec les membres de la caste dominante. Molière dîne avec le roi. L'artiste est invité chez les duchesses comme l'abbé. Je me demande dans quelle désastreuse proportion s'abaisserait aussitôt le nombre des artistes si cette prérogative se voyait supprimée. Il n'est qu'à voir le soin que les artistes prennent avec leurs déguisements vestimentaires et leurs comportements particularisants pour se faire connaître comme tels et bien se différencier des gens du commun. Pascal Audin, peintre, artiste, hors norme, à Jancey, jusqu'à 16h, là-bas, j'y suis.
Est-ce que vous avez revu vos parents?
Mon père disait une chanson. Je m'en vais même.
Vous la revoyez, votre mère?
Non, je ne veux pas la voir. Je vous fais le mur, moi.
C'est moi l'enfant du placard. Celui qui a grandi dans le noir, les yeux pleins de larmes chères, la nuit dans mes étagères.
Moi, tu es le mal aimé de ma famille déjà.
Il y a l'enfance de l'art, hi, hi. Ah, ah, moi c'est l'enfant du placard, hi, hi. Ah, ah. Parfois encore dans mes narines flotte une odeur de naphtaline. Et souvent quand tombe le soir, j'ai la nostalgie du placard.
Voilà. On choisit pas. Comme on dit, on choisit pas sa famille. La, la, la. 375 km. J'ai piqué le boulot, mon frère. Au départ, c'est rien, hein. Les gens en font. Les piqûres, c'est une mode des quatre. ça a un traitement qu'ils donnent ça dans les fesses. Là, ça t'a fait un boum, tu tombes. Moi, je voulais pas rechuter, je voulais faire quelque chose de ma vie. Moi. Ça, j'ai pris une revanche dans ma vie. Moi. Je reprends une revanche dans ma vie.
Vous avez fait entre 14 et 18 ans?
J'ai plein de trucs. J'ai resté dehors. J'étais dehors. Pas même un juif.
Mais vos parents vous cherchaient pas?
Non, plus rien. Non. C'est ce que je voulais. J'essayais de contacter toi, une dame pour que je rentre dans un centre. Toi. Ça serait bien pour moi que vivre dehors, j'ai rien à faire, moi. Bah ouais. Hein.
Et vous aviez quel âge, là?
17 ans, j'irais bien. Ouais. Bah, c'est ça. Mais ça, j'en parle pas, ça. Il y a des trucs qui s'est passé, je veux pas en parler. Ça reste dans mon cœur, comme tout à l'heure j'ai dit.
Vous appreniez quoi?
La peinture. J'étais peintre de métier, en bâtiment. Et ça, ça me plaisait beaucoup. Puis il y a eu une histoire, ça m'a pas plu après. Toi, j'étais complètement révolté, toi. Ce qu'ils m'ont fait, c'est jamais oublié. Parce qu'il y a d'autres enfants, ils ont abusé d'eux, comme moi, voilà. Puis voilà, puis j'en parle pas, puis bon. Tu peux pas imaginer, là. Toi, t'imagines pas, toi. C'est pas un garçon. C'est une fille. Une fille, ça aurait été pire. Hein. Ouh là là. J'imagine le reste, moi, après. Le reste, pour une fille, ça doit être dur. Hein. Ouais, ouais. C'est la pire. Elle est salie, après. Nous, on était salis aussi. Hein. Par des ouvriers, nous. Hein. Puis on avait ras-le-cul et on pouvait plus bosser, nous. Ce qui nous fait subir les ouvriers. Nous, on a resté pendant un mois sans rien dire. Puis vous voyez, le patron, il a dit, putain, ça va pas du tout, vous, hein. Les deux, là. Tu vois mal, hein. Puis lui, il a dit, allez, hein, on l'a pris à part, le patron, pas devant les ouvriers. Un soir, on était chez lui. Je sais plus quoi dire, moi, déjà. Lui, il a parlé, moi, je voulais rien dire. Et moi, j'avais la honte de le dire, que... Après, on leur a dit que j'ai subi, puis lui aussi, voilà. Oh là là, honte. C'est pour me mettre, moi. Le jeune, oui, c'est pour me mettre, aussi. C'est dur, hein, de raconter ce qu'ils ont fait, nous, à nous. Il a des enfants, lui, il sait ce que c'est, voilà. Et bon, après, le mec, il a fait virer tous les ouvriers. Tu te rends compte de la boîte? C'était un patron clair, attention, ça. Il voulait pas de ça, lui, hein. À la porte d'entrée. Putain. Après, ils ont été convoqués à la chambre des métiers, toi. Le mec a porté plainte. Le patron, il était sympa avec nous, hein. Ça marque, après ça, je pourrais pas le faire, moi. Hein. Enfin, on était des enfants, nous. Je suis pas d'accord, moi. On fait pas ça à des enfants.
Mais ça veut dire que les ouvriers avaient l'habitude de faire ça avec tous les jeunes, voilà, qui passaient?
Voilà. Un jeune, ils ont pas de sensibilité, peut-être, puis ils ont fait ça à nous. Comme s'ils feraient ça à leur enfant. Puis le manque de peau, ils ne font pas à leur enfant. Ils sont mariés, ces gens-là, ils ont des enfants, ils ne font pas à leur enfant. Ils font à d'autres. Mmh. Moi, j'étais soulagé après. Hein. Puis attends, ils ont convoqué mes parents, je sais plus quoi dire, moi. Bah oui, hein.
J'imagine que vos parents vous en ont voulu à vous.
Bah oui, hein. Ce qu'ils m'ont fait avant, eux. J'en ai parlé au patron aussi, ça. Il croyait pas, lui. Eh oui. Comment réagir, là? Eh ouais. Je voulais plus travailler. Moi, j'ai arrêté de travailler après. Hein. Ah ouais, j'étais complètement déboussolé après. Hein. Quel mal, couillon, Guillaume. Il me reste toujours des séquelles aussi dans mon cœur. Eh oui, voilà. Puis pour toute ma vie, là. S'il avait été comme ça, ben putain.
C'est-à-dire qu'avec un départ pareil dans la vie, comment vous pouviez imaginer la vie?
J'imagine, ma tante m'avait tout expliqué de A à Z, bon, comme ça, voilà, des questions qui se posent. Je te posais des questions à ma tante, moi. Toi, tu serais dans un pont, pas moi. C'est une question de volonté, si ça prend. Ça, j'ai pris une revanche dans ma vie, moi, voilà. Je reprends une revanche dans ma vie. Ah oui, hein.
Ouais, on connaît la phrase fameuse attribuée à Samuel Beckett. Quand on est dans la merde jusqu'au cou, il ne reste plus qu'à chanter. Alors voilà, c'est ce qu'a fait Pascal Audin. Mais la phrase est belle, la métaphore est belle, mais sa vie ne l'était pas. Comment est-il passé de cette vie de merde? Il faut bien appeler les choses par leur nom. Il le dit lui-même, cette de cette souffrance qui n'est pas si rare, qui est tenue au secret, bien évidemment, dans les plis et les replis des familles à travers notre bel hexagone et bien ailleurs, bien sûr. Ces souffrances qui n'affleurent jamais parce qu'elles sont dégradantes et puis elles restent là. Et comment sortent-elles du bois et dans quel état et comment les transformer? Comment faire de ce plomb de l'or? Comment faire de cette souffrance, de cette merde, de la couleur? C'est une mystérieuse alchimie. Est-ce que on comprendra à travers les mots de Pascal comment les choses se sont ainsi retournées?
Vous avez fait une fois que vous avez quitté le chantier où vous étiez artisan peintre. Mais alors après, qu'est-ce que vous avez fait
après, j'étais placé dans les centres, moi, dans un centre d'adaptation au travail.
Un centre d'adaptation au travail.
Voilà. C'est un truc handicapé après ça. Moi, je vais m'en remettre dans la vie. C'est pas facile. Puis apprendre de A à Z après. T'avais la pierre, t'avais le macramé avec Marie-Vonne, je me rappellerai toujours. La pierre, c'était avec Grégoire Berchenko. Voilà.
Alors, c'est là que vous avez appris à tailler la pierre.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, là, vous aviez quoi, 18 ans? Vous aviez 18 ans, là?
Ouais, 20 ans, je dirais, moi, tout cassé, moi. Puis là, ça marchait. Ça me plaisait, mais j'avais... La seule solution, c'était ça, moi. De m'en sortir.
Et là, vous êtes resté combien de temps?
J'ai resté 3 ans. 3 ans en carte. Mais là, c'est parmi... Avec des jeunes, t'as 6 appartements. Filles, garçons. D'un côté, c'est les filles, puis de l'autre côté, HLM différent pour les garçons. J'ai appris à vivre avec des filles aussi. Et après, avec des garçons. D'abord, c'est avec les garçons, puis...
Et les filles dans tout ça?
J'ai eu plein de relations avec des filles.
Et c'était la première fois?
Ouais, c'était bien. C'était excellent, je trouvais. Voilà. Bon, t'en prends pour 50,
Enfin,
j'ai subi des trucs aussi, les filles. C'était comme moi. Il a reprenait le goût de la vie, Il y a eu des filles qui ont eu des problèmes dans leur vie aussi.
C'était des filles maltraitées aussi.
Ouais, oui, sûrement.
Mais vous n'aviez pas peur des filles?
Tu leur demandes s'ils ont pas peur des garçons, vous savez. Voilà. Non, j'ai pas eu peur. T'apprends à connaître les filles, Tu fais pas ça comme ça. Tu vas pas sauter dessus quand même. C'est vrai, quand t'apprends à vivre avec quelqu'un, c'est dur, Avec plein de gens, je connaissais pas ça, moi. Quand t'es tout seul, réservé tout seul, voilà, ça m'avait vachement aidé, ce centre-là. Quand j'ai vu des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont cajolé, toi, j'ai jamais vu ça, moi. Tout d'un seul coup, tu vois des gens gentils comme ça, c'est vrai que tu te dis, putain...
Ça existe?
Bah oui, voilà. Moi, on me l'avait appris, moi, attention, ma tante. Sur le livre, toi, il y avait des gens qui pleurent, c'est bien indiqué. Elle avait un bouquin là-dessus, putain, c'était extraordinaire, ça. Ce livre qu'elle avait. Dur, j'étais violent avant, C'est ce qui m'arrivait de tout ça, de toute façon, tu deviens violent,
Vous étiez violent?
Ah oui, quand il t'arrive des trucs comme ça. Bon, tu n'avais pas sur les gens, moi, T'es violent, c'est dans ta tête, Passe à travers les fenêtres, T'as déjà vu ça, toi? Les grandes baies vitrées, je passe à travers, coupé, tous les jours. Il est changé tous les jours, avec moi. Eh ouais. Je veux pas, moi, de carreaux. Ça revenait peut-être à mon enfance, peut-être ça. C'est comme s'il n'y avait pas de carreaux. Je bloquais le passage, où passer, tu passes dans le carreau,
C'est-à-dire qu'en fait, si vous étiez dans une pièce où il y avait des gens qui vous bouchaient la sortie, comment vous empêchez de sortir par la porte, sans le vouloir d'ailleurs?
Tout droit, dans la fenêtre.
Vous vous échappiez par la fenêtre, en cassant les carreaux?
Mais pas avec le poing. La tête, la première dans le carreau. Je passe à fond, moi. Puis coupé de partout, c'est pas grave. Je sentais rien, je finis de partout.
Et tous les jours?
Non, peut-être pas tous les jours, Ça m'a râle cul, Les carreaux, ça dégageait, Pas avec le poing, la tête, la première dans le corps, passe à la fond, moi. Puis coupé de partout, c'est pas grave. Les marteaux, ça volait dans l'atelier quand ils m'ont appris à tailler la pierre aussi. Il y en a qui me calment, heureusement. Grégoire, c'était autre chose aussi. Il m'a formé. pas, pas violent, être simple.
En fait, Grégoire, c'était votre tuteur ou...
Non, c'était un éducateur qui m'apprenait la taille de pierre. Il prenait chaque gens comme nous qui était un peu violent.
Et lui, en fait, c'est lui qui vous a révélé, sauvé. Ah ouais,
c'est moi, j'aimais bien ça.
Dans votre malheur, vous avez eu la chance.
De trouver ces gens-là, moi je dis, pour essayer de m'en sortir, c'est le plus beau, ça. Quand tu sors du quartier, eh ben, je fasse quelque chose, hein. Ouais, du centre. Puis j'avais l'âge. C'est une location. Bah, j'avais une pension. Truc handicapé. Bah, j'étais malade des nerfs, moi. Ça me permet de vivre, ça. Je pensais pas à peindre un jour. Chez moi, je commençais comme ça. J'ai pas un ami. Il m'a emmené à un truc de foire. Mais tu veux pas peindre un jour avec toi? Puis, je voulais pas rentrer aux couleurs du temps, moi.
Les couleurs du temps, c'est un magasin, ouais, c'est ça?
Peinture. Avec tout ça, des peintures, toi, des taux. Je sais pas, moi, toi. Un jour, peut-être, j'ai dit à ce mec, j'ai peut-être rentré, hein, je reverrai ça. Toi, lui, il peignait, moi, je peignais pas, hein. Puis, toi, il y a eu un déclic qui s'est passé. Et un jour, je passais comme ça, devant le magasin. L'autre, il me dit bonjour, bonjour. Puis, un jour, je me suis lancé, j'ai dit, allez, je rentre dedans pour voir. Dans le magasin, j'ai regardé un peu. Putain, c'est cher, ça, couillon.
C'est cher, couillon?
Je faisais à ma propre manière, moi, tu vois. Putain, j'ai dit au mec, putain, j'ai pas de sous, moi. Le mec, il me dit, oh, c'est pas grave, j'ai pas de sous, je lui fais un petit cadeau. Putain, moi, j'étais aux anges, moi, j'ai fait un petit cadeau. J'en ai jamais eu de cadeau, moi. Bah oui, c'est sympa, il m'a offert une petite toile. Il y avait rien dessus, hein. Et après, un jour, je lui dis, tiens, je vais acheter de la peinture. C'est comme ça que j'ai débuté, moi. C'est marrant, ça.
Et qu'est-ce que vous avez peint?
Ce qui passait dans ma tête. La souffrance de ma vie. Comme ça, naturellement. Des personnages. Ouais, ce genre de personnage, moi.
Et en couleur?
Ouais. T'es triste aussi. Ouais, j'étais triste. Ils étaient enfermés dans un truc. Il y avait toujours un cercle autour. Peut-être je revoyais peut-être mon enfance, peut-être. Hein. Puis j'ai trouvé mon style. Après, j'ai commencé à peindre. Je m'arrêtais plus après. Hein. Voilà, c'est ça, hein. Puis après, je l'ai présenté sur le marché. Pour voir si ça se vendait, ça. Putain. On n'était pas connus. Puis ça a bien marché. C'est rigolo. J'étais content. J'avais un peu de sous. J'étais acheté par les mecs. Je voyais plein de mecs comme ça. Je causais avec eux. Bah oui. Hein. Et mes toiles par terre. Puis voilà, je vends 500 francs. Non, 20 francs. Pour une bouchée de pain. C'est pour voir. Mais moi, ça me plaisait. J'avais pas de sous. Hein. Payer mon paquet de cigarettes avec. Quand t'as beaucoup de thunes, c'est fort pour moi. Puis j'ai continué, j'ai pas arrêté. Hein.
Et vous aviez quel âge?
Ah voyons, putain, 40 ans là maintenant. Ouais, pas loin de 40 ans. Ouais.
Et comment on pourrait qualifier votre peinture?
L'art naïf, moi je l'appelle. Pas de l'art brut. L'art pour enfants aussi. Tu regardes des bouquins. Parce qu'il y a des bouquins maintenant. J'ai pas été dans les galeries, moi.
Et qui admirez-vous comme peintre?
C'est ça, moi, toujours. Gachon, c'est ça, il a eu une vie très pauvre, ce mec-là. C'est le mec qui a inventé l'art brut, c'est beau. Hein, c'est, comment il s'appelle, Dubuffet, moi, je dirais, moi. C'est lui qui l'a inventé, c'est un art brut. Maintenant, les gens, ils s'intéressent à moi, c'est bizarre.
Mais oui, ça marche bien, maintenant. Ouais. Vous vendez bien?
Oui. Pour les vendre tous les jours, ce serait bien, hein. Tous les jours, ça me plairait, moi. Hein.
Est-ce que vous vendez à des collectionneurs, à des musées?
Ah, il y a des collectionneurs, puis des musées aussi. Ouais. Packer Cheval. Le plus grand musée d'art brut, c'est le Packer Cheval. Dans la Drôme. Puis à la Palisse aussi. La Palisse, c'est dans l'Allier. Pourquoi vendre cher? Ça sert à rien.
Oui, mais en fait, vous, l'argent que vous gagnez par vos peintures, vous pouvez le garder?
Non. On l'envoie au tuteur. C'est une tutelle.
Parce que vous avez une tutelle.
Voilà. Curatelle légère maintenant. J'ai le droit de voter, avant j'avais pas le droit de voter.
Ouais. Et vous avez voté récemment?
Oui. Attends, le premier coup, ça m'a dégoûté. J'arrive là-bas, présente ma carte. T'as pas le droit de voter, il me dit. Bah, comment que ça se fait? Pas le droit, je suis un citoyen comme les autres, moi. J'ai pas le droit de voter. J'ai dit, j'irai ma carte, moi. Ah, oh là là, la honte. Ouais. Première fois de ma vie, j'allais voter, moi. J'ai dit, mais voter, moi, avant. J'étais fier, moi, d'aller voter.
C'était trompé dans les listes électorales et ils vous avaient pas mis, quoi. Voilà.
C'est bien, ça.
C'était les élections présidentielles?
Oui. Ouais, présentation. Ouais. J'arrête pas de dire le mot, moi. Présidentielle, ouais.
Et vous avez voté au deuxième tour, donc.
Voilà. Comment il s'appelle, Sarkozy? C'est Ségolène Royal, moi. Au départ, c'est raide, hein. C'est dur, hein, de raconter ce truc qu'ils ont fait, nous, à nous.
Partout.
Ah oui, hein. Il y a des trucs qui s'est passé, je veux pas en parler.
Je fais un reportage sur Pascal, figurez-vous.
C'est bien, je suis content. Il y a bien des gens qui me disaient, mais toi, tu n'y arriveras jamais. J'ai bouffé le mur, moi.
Comment on pourrait qualifier votre peinture ?
L'art naïf, moi je l'appelle. Pas de l'art brut. L'art pour enfants. Enfin, un pompier, il m'a dit un jour, c'est marrant, je m'en rappellerai toute ma vie, il m'a dit, t'as autre chose de mieux à faire dans ta vie. Il y a un déclic qui s'est passé. On me dit de te suicider, t'as autre chose de mieux à faire dans ta vie.
Bonjour. Je fais un reportage sur Pascal, figurez-vous. Vous, madame, vous connaissez ?
L'office du tourisme, bon, ben, on l'explique que c'est un artiste avec des œuvres contemporaines.
Mais vous le connaissez depuis combien de temps, Pascal ?
Ben, depuis qu'il est installé ici. 4-5 ans. Combien de temps, Pascal ? Il me semble, 4-5 ans, ouais.
Mais c'est rare d'avoir un artiste comme ça sur la place principale du village.
Surtout dans une petite commune comme Jansey. Puis c'est vrai qu'il a rehaussé en couleur notre entourage. Non, c'est bien, c'est parfait. Une explosion de joie dans notre petite commune.
On va dans votre atelier ?
Oui, on y va. Hein. Voilà. Hein.
Au revoir, merci.
Bon après-midi.
Merci.
Voilà, on rentre dans l'atelier de l'artiste. Ouais. Attends, je vais allumer.
Et vous avez peint tous les murs hein, de la maison.
Ah oui, comme ça, ça va plus vite.
C'est vrai, ça ressemble à une antre, un peu à une grotte.
Bah ouais, c'est bien comme ça, ça fait revivre un peu la maison.
Non, c'est la maison entière qui est une œuvre d'art.
T'as vu, hein.
Mais c'est extraordinaire, cet endroit. Il y a au moins, je sais pas, il y a 400 mètres carrés, là. C'est ici, l'atelier ?
Ouais, c'est génial dehors, en plein air.
Il y a combien de toiles et d'œuvres ici ?
Bah, il y a plein d'œuvres. C'est vrai qu'il y a des milliers d'œuvres.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire de tout ce qu'on a récolté aujourd'hui ?
Ça va rester dans mon atelier. Et puis après, plus tard, je saurai quoi faire. L'autre fois, j'ai fait ça, là. Un totem.
Et vous avez une couleur préférée ? Parce que c'est plein de couleurs.
J'ai plein de couleurs préférées. Ça m'inspire, ça. Tu mets un œil là, voilà. Tu mets deux pointes là, ça fait les cheveux. J'aime bien, c'est dans mon univers. L'univers, il est mystérieux, je dis. Bah oui. Il n'est pas là, mon marteau exprès. Ça, c'est un marteau exprès. Voilà, comme ça. C'est juste pour tailler, toi. J'aime bien la taille de fer, moi. C'est le bruit, j'aime bien. Là. Là, c'est des formes, ça. J'aime bien les formes, moi. Là, il y a un personnage. Les yeux, le nez, ou peut-être la bouche. Ça m'inspire, ça.
Il n'arrête pas. Il n'arrête pas, vous pouvez aller le voir, c'est un artiste pas maudit. Ça va bien. Le maudit, c'était avant dans sa vie, mais maintenant, comme dit la dame de l'office de tourisme, il a rehaussé en couleur le village. C'est pas mal quand même. Hein. C'est une belle histoire quand même. Enfin, ça l'a pas été, mais ça l'est devenu. Et Pascal Audin, je vous le rappelle, c'est à Jansey, 15 places du marché de Jansey. Ça va être très facile quand vous arrivez, vous demandez où est le, où est le peintre, où est l'artiste, et hop, on conduira sans doute tout droit à cette maison. Il vous recevra à mots ouverts, à gestes ouverts, à couleurs ouvertes, et ces difficultés qu'il eut, on les retrouve dans ce que dit Jean Dubuffet, toujours dans l'asphyxiante de culture, puisque Pascal Audin l'a cité, et Dubuffet disait ceci: de même que l'attrait des ébats sexuels se voit augmenté par les interdits sociaux qui les concernent, le ressort de la contestation prend aliment à la fermeté de l'ordre établi, et sa tension baisse ou l'ordre établi perd de sa consistance. Il faut aux nageurs de l'eau qu'ils doivent brasser.
Il m'arrive plein de trucs aussi. Que toi, tu sais pas. Moi, ouais, j'ai fait une famille.
Vous aviez quel âge?
Ouais, 25 ans, j'irais bien. J'étais un jeune homme beau, en plus. Hein. Ouais. Pas de chance dans ma vie, voilà. Moi, j'ai pas eu de chance avec mes parents, j'ai pas eu de chance avec mon fils. Voilà.
Mais vous avez un fils?
J'ai eu un fils. Quand j'ai eu un fils, j'ai pas eu de chance dans ma vie. Avec mes parents, j'ai pas eu de chance. Mon père et ma mère. Et avec mon fils, j'ai pas eu de chance.
Vous étiez en
cours? En bébinage. Ouais, comme ça. Ouais. Femme et homme. En
concubinage, en couple, ouais.
En couple. J'ai vécu l'amour, hein, comme tout le monde, hein, comme les femmes, hein. Bon, voilà, ça s'est bien passé. Puis d'un seul coup, il y a eu quelque chose, je sais pas quoi, moi. Hein. Le bébé est décédé, puis moi, ça m'a broyé, moi. Il avait 7 mois. Puis toi, c'est bizarre la vie, hein. A voulu que la vie, j'ai pas cet enfant, voilà. Non, j'ai vécu avec cette femme longtemps, en plus.
Mais alors, du coup, votre compagne, elle est partie?
Bah oui. Peut-être avec pour d'amour pour lui, peut-être, je sais pas. Oui, elle est partie, hein. Ouais. Avec un autre, hein. Tu pètes les plombs, là. Ouais, je passe l'enterrement, tu sais. Ah oui, faut l'enterrer aussi. Tu prends n'importe comment, hein. Mais oui, c'est ça le plus dur, hein. C'est ce qui m'a payé mon enterrement, c'est pas ma mère, hein, je peux te le dire. C'est des manouches, moi. Ça m'a foudroyé, moi. Ah ouais, je me rappellerai toute ma vie. Hein. Il me quitte jamais. Je lui dis, dans mes œuvres, il est dans mes œuvres. Je crois que c'est lui qui me dirige. Parce qu'un PC fait ça. Pourquoi je fais des personnages, maintenant? Voilà. C'est là que j'avais tentation de suicide. Je voulais mourir, moi, pour ça. Hein. Un pompier, il m'a dit un jour... C'est marrant, je m'en rappellerai toute ma vie. Il m'a dit, t'as autre chose de mieux à faire dans ta vie. Il y a un déclic qui s'est passé. Au lieu de te suicider, t'as autre chose de mieux à faire dans ta vie.
Et qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Qu'est-ce que vous aimeriez faire, hein, votre rêve? Maintenant, vous avez 50 ans.
Ouais. Ah, il y a plein de choses que je voudrais faire. Continuer la peinture. Et faire un livre de moi. J'ai toujours rêvé d'avoir ça, toi. Quelqu'un, un interprète. Trouver quelqu'un qui me corrige toutes les fautes. Et puis j'y raconte ma vie, de A à Z. Il y a des moments tristes, il y a des moments heureux, soit des moments faut pardonner. Puis de mes tableaux aussi. Comment je vais évoluer page par page. Tu vois, il y en a qui le font, ça. C'est quand ils écoutent après les choses que l'artiste dit, c'est vrai qu'il donne une autre notion de l'artiste. Eh oui, hein.
Vous n'êtes plus jamais triste?
Oh, ça dépend. Il y a des hauts et des bas, hein.
Qu'est-ce qui vous manque maintenant?
Oh, quelqu'un, vivre avec quelqu'un, ça pourrait être sympa.
Ça pourrait être sympa, oui.
Voilà. Puis partager ce que j'ai. Voilà. Ça peut être génial aussi. Ça me changerait peut-être ma vie, hein. Ça se trouve, je ne peindrais plus. Ah, là, ça serait peut-être marrant, ça, avoir ça.
Si vous trouviez une femme...
Ah ouais, qui me comprend bien, toi, les choses que j'ai vécues, ça compliquerait peut-être la vie, là. Ça serait peut-être différent.
Mais ici, à Jansec, il y a un petit village.
Non, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé, puis j'ai pas cherché.
Vous avez eu des copines dans ici, dans le coin?
Bah oui, heureusement. Oh, j'ai eu des relations, c'est vrai. Ouais, puis ça m'a pas... hein. Mais c'est en plus, hein.
Et les filles, elles vous trouvaient beau?
Ça va, moi. Et vous, vous me trouvez comment?
Moi, je vous trouve magnifique. Voilà. Et puis surtout, c'est vrai que vous ressemblez, barbu et avec les cheveux longs, à Karl Marx, avec des yeux gris-verts. Mais comment vous imaginez votre famille idéale?
Avoir plusieurs enfants, une famille autour de moi, autour de la table. Non, puis bon, non, prendre moi, c'est quelqu'un d'autre. Alors, 5 enfants, non. 2 enfants, ça me plairait. Une fille et un garçon, ça m'aurait bien plu, ça. Leur conseiller, je sais pas, les éduquerait, voilà. Je ferais pas ci, pas ça. Hein. Oh, je serais pas le mec dur, je serais doux avec eux, moi. Je ferais pas revivre ça, moi, mes enfants, moi, ce que j'ai vu, toi. Voilà.
Et la vie idéale, qu'est-ce que c'est pour vous?
Tu finis dans le bonheur, allez hop, la vie idéale, c'est ça, hein. Quand t'es milliardaire, tu fais rien du tout de ta vie, hein.
Il faut pas d'argent pour être heureux, c'est ça?
L'idéal. Ah. Bon, si, hein. Faut que tu travailles, vraiment, tu pètes les plombs, hein. Mm. Non? Je sais pas, moi. On imagine, hein.
Et quel est votre plus grand moment de bonheur jusqu'à présent?
Bah, c'est de rencontrer des gens que j'aime bien. Vie de peindre.
Non, mais c'est étonnant que vous arriviez à donner de l'amour alors que vous en avez très peu reçu. Voilà.
Bah, si. Moi, j'en donne. Maintenant, j'en donne aux gens.
Oui, mais.
Dans mon art. C'est une joie de vivre, ça, de peindre. Moi, je suis heureux de vivre dans ma passion.
Comment on pourrait qualifier votre peinture?
L'art naïf, moi, je peigne. Pas de l'art brut. L'art pour enfants.
Mon meilleur ami est un chien. On peut lui parler, mais il ne vous répondra pas. Il aurait préféré avoir une femme comme amie. Une femme attentive, belle et sûre, qui travaillerait dans l'éducation nationale. Ils auraient des regards que nous n'avons pas, que nous n'avons plus. Et ils parleraient d'amour et de choses inouïes. Avec moi, ça n'est plus possible. Ça fait trop longtemps maintenant. Alors certains jours, je préférerais expliquer mon œuvre à un lièvre mort. Mais ça n'est pas possible parce qu'il est déjà occupé avec un type qui lui explique la peinture.
Ce qu'on appelle art psychopathologique, art anormal... Eh bien, c'est absurde d'en faire une seule catégorie, étant donné qu'on peut faire de l'art normal, de l'art culturel, une catégorie. Mais de l'art anormal, il y en a d'infinies catégories et le champ est illimité des nouvelles catégories qui peuvent se découvrir. Je trouve que ce qu'on attend de l'art, et tout le monde est unanime sur ce point, c'est qu'il apporte quelque chose de nouveau. Ce qu'on demande, on dit d'un art qu'il est intéressant quand il est novateur, quand il est inventif, quand il apporte quelque chose de neuf, et par conséquent quand il n'est pas normal, quand il n'est pas banal. À mon sens, l'art des fous, quand on parle de l'art des fous, ça n'a pas plus de sens que de parler de l'art des malades du genou. Et j'en suis de plus en plus convaincu.
Comment on pourrait qualifier votre peinture?
L'art naïf, moi je l'appelle. Pas de l'art brut. L'art pour enfants aussi.
Et pourtant, c'est Jean Dubuffet qu'on entendait, lui qui disait... La production d'art est un champ donné à l'esprit de caprice. Rien n'est plus dommageable à l'esprit de caprice que son assujettissement à une raison d'État, son administration par la collectivité qui implique son contrôle et son orientation, au contraire de nourrir le grouillement primordial, l'humus fécond dont naîtront les mille fleurs. La propagande culturelle le stérilise, elle plante à sa place 4 hortensias de papier teint de sa fabrication, dont elle est très fière, et désherbe bien soigneusement tout autour.
Alors, je m'ennuie sérieusement. Je m'ennuie et mon emploi du temps vous
nous appartient complètement. Alors, racontez-moi ce que vous faites là-bas. Il doit y avoir du soleil, et vous mangez des fruits rouges, et vous devez vous baigner souvent. Hein? Je suis sûr que vous êtes tout nu. 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 Je suis sûr que vous êtes tout nu.
Vous êtes tout nu.
Je suis sûr que vous êtes tout nu.
Vous êtes tout nu.
Vous êtes tout nu, j'en suis sûr. Décrivez-moi cet homme qui parle tout seul et qui n'a plus qu'un bras. Est-ce que vous le voyez toujours marcher devant la maison? Est-ce qu'il marche toujours devant la maison? Est-ce qu'il marche toujours devant la maison?
Penser au train, ça. Hein? C'est rigolo, ça. Ils sont tout différents, les sifflets. J'aime bien celui-là, moi. Puis quand vous sifflez, l'oiseau, il bouge. C'est génial, ça. Là, il bouge. C'est rigolo, c'est une belle pièce que j'aime, ça.
Et tout sur dans une vitrine, dans très vitrines. Bien rangée.
Ah, t'as intérêt, ouais. Ça, c'est tout dans l'argent, ça. Oui, ça coûte cher. On dépense beaucoup d'argent là-dedans. Ça y ressemble à un bateau, celui-là.
C'était un reportage d'Anne Rioux. Merci à toute la tribu Bernardo, Odile Duburc et Grégoire Bertchenko. À noter l'adresse du site des amis de Pascal Audin, www.lesamisdemonsieuraudin.centerblog.net. À lire Asphyxiante Culture de Jean Dubuffet, publié par les éditions de Minuit en 86 et toujours disponible. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Émissions. Là-bas, si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Dimitri Gronoff et Thibaut Deschamps, réalisation Koy Nguyen et Raphaël Moutarde, assistante Agnès Lebot, chef du répondeur Céline Rouzet et le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Là-bas si j'y suis. Escuchen là-bas.
Somos cultura gitana, somos tradición rumbera, a ritmo ventilador, hoy plantaremos bandera.
Generaciones, esto sí que no es casual, porque estamos cantando nuestra rumba universal que se pone a gozar.
La que se ha liado, la que se ha liado, la que se ha liado.
La rumba ya está sonando. Deja las penas a un lado. La que se ha liado. La que se ha liado. La rumba ya está sonando. Deja las penas a un lado.
La rumba es un gran invento, una gran creación. Gracias te doy, pescadilla, aún resuena tu ventilador, te lo digo yo.
La que se ha liado, la que se ha liado, la rumba ya está sonando, deja las penas a un lado.
Con quita, quita aquí, tú vas a bailar, patriarca ya ha llegado, la rumba vuelve a empezar, taquita, quita.
La que se ha liado, la que se ha liado. La rumba ya está sonando, deja las penas a un lado.
Para mi gente de Lleida, yo les quiero así cantar. Nuestra rumba catalana, que hacia la tierra tiembla, que va, que va.
La que se ha liado, la que se ha liado. La rumba ya está sonando, deja las penas a un lado.
Yo soy el tío Palao, y soy el rumbero mejor. Te canto y te bailo la rumba de corazón.
La que se ha liado, la que se ha liado. La rumba ya está sonando, deja las penas a un lado.
Esta rumba que te canto, oye, no se puede aguantar. Macaco y patriarca, ay, te ponen a bailar.
¡Rumbea! La rumba tumba, ataca, ataca, priva, papá.
Con macaco y patriarca, privándole, vacilándole, óyelo.
La que se ha liado, la que se ha liado, la rumba ya está sonando.
Dans un instant, rendez-vous avec Frédéric Lodéon, France Inter, il est 16h. Le Flash, Julie Gacon.
Bonjour, où l'on repousse encore un peu les échéances tant que l'on ne sait pas où va le nuage. 20 aéroports du nord de la France resteront finalement fermés jusqu'à demain, 8h, annonce de la direction de l'aviation civile. Les arrivées sont autorisées à Orly, Roissy et au Bourget jusqu'à 18h ce soir, ainsi que quelques décollages exceptionnels. Eurocontrol prévoit déjà des perturbations pour demain. La Grande-Bretagne, elle aussi, prolonge la fermeture de ses couloirs jusqu'à demain, 6h. Le nuage volcanique originaire d'Islande poursuit une trajectoire sud-sud-est à quelques 40 km/h, nous disent les météorologues européens. Il devrait bientôt se trouver en Russie. Pas plus de détails. Quand se dispersera-t-il? Mystère. Dernier pays en date à avoir fermé son espace aérien, la Slovaquie. Demain, en France, Eurostar fera rouler 8 trains supplémentaires à destination et en provenance de Londres. Ils s'ajoutent aux 44 déjà prévus. Quelques fissures dans la grève à la SNCF. Plusieurs assemblées générales se sont terminées en fin de matinée. Le conflit est suspendu en Auvergne notamment. Et puis à Marseille, les conducteurs ont voté la reprise du travail. Les conducteurs, mais pas les contrôleurs. La situation reste bloquée en Midi-Pyrénées, en Rhône-Alpes et en Bourgogne. La Cour de cassation les avait déboutés. Non à une consultation à 23 euros, tarif plancher des spécialistes. Mais les médecins généralistes vont finalement obtenir l'augmentation qu'ils réclament. Elle prendra effet le 1er janvier 2011. La décision est prise, a déclaré Nicolas Sarkozy lors d'un déplacement en Seine-Saint-Denis. Et c'est l'ancienne ministre de la Santé, Elisabeth Huber, qui est chargée de conduire la concertation sur les difficultés de la médecine de proximité. La direction d'Essex vient de saisir la justice, assignation en référé pour obtenir l'évacuation du site de Mâcon. Les salariés retiennent toujours leur directeur et leur directeur des ressources humaines. Ils réclament que la prime supralégale après fermeture du site soit fixée à 120 000 euros par personne. L'audience aura lieu tout à l'heure à 17h30. Après une probable réforme des vacances scolaires et des rythmes scolaires dans le premier et le second degré, va-t-on vers un allongement de l'année universitaire? Valérie Pécresse s'y dit favorable cet après-midi dans une interview à nos confrères de LCI. La ministre de l'Enseignement supérieur verrait bien une année de 10 mois pour les étudiants qui inclurait des stages et des mémoires de recherche. Aujourd'hui, l'année universitaire dure plutôt 9 mois pour la plupart des étudiants. Ces propos négationnistes avaient embarrassé la fraternité Saint-Pédis en plein rapprochement avec le Vatican. L'évêque Williamson est condamné à 10 000 euros d'amende pour ses propos sur les chambres à gaz qui n'auraient pas existé à une télévision suédoise. Le tribunal de Ratisbonne en Allemagne l'a reconnu coupable d'incitation à la haine raciale. Il le jugeait par contumace puisque Williamson avait interdiction de se rendre à son procès, ordre de sa hiérarchie.
Le Pont des Artistes, Isabelle Dordain.
Le Pont des Artistes sera en direct du Printemps de Bourges et mettra un coup de projecteur sur 25 ans de découverte avec le réseau Printemps. Coup d'œil également sur la programmation spéciale Afrique du Sud avec toutes les tendances musicales portées par une nouvelle génération d'artistes. Et enfin, nous vous ferons découvrir les groupes Wave Machines et Fool's Gold en concert.
Le Pont des Artistes en direct du Printemps de Bourges, demain à 20h.
France Inter.
La différence.
16h03 sur France Inter. Bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour Julie. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Marc-Olivier Dupin, directeur de la musique à Radio France. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Frédéric.
Alors vous venez pour la présentation de la nouvelle saison de Radio France, c'est-à-dire à partir de septembre ou octobre, enfin jusque c'est la saison scolaire au fond, ça suit l'année scolaire, et vous avez écrit donc un prologue, on va dire comme en musique ou en philosophie, Éloge de la gourmandise. Vous avez cité Brillat Savarin dans le livret qu'on peut trouver, qui est très bien fait, très joli aussi. Il y a eu un effort sur la présentation, les couleurs, etc. Donc Brillat Savarin, fameux gastronome, qui dit « La gourmandise est un acte de notre jugement par lequel nous accordons la préférence aux choses qui sont agréables, au goût. » Ça paraît un peu lapalissien, mais enfin bon, c'est évident qu'il vaut mieux faire plaisir, comme disait Claude Debussy. La musique, c'est quelque chose qui doit faire plaisir. Alors, quelle est votre idée générale pour composer le menu, je dirais ça comme ça, de cette saison de Radio France, qui comporte évidemment des protagonistes. Il y a l'Orchestre Philharmonique, l'Orchestre National, la maîtrise, et puis le chœur, c'est beaucoup de musiciens de très grands talents.
Écoutez, je crois que la première des choses, c'est de composer des programmes qui donnent envie au public d'aller au concert. Comme disait une merveilleuse chanteuse lors de la folle journée récemment à Nantes, elle disait, Barbara Hendricks, elle disait, il faut oser aller au concert. Et je trouve que c'est bien oser aller au concert, car beaucoup de nos concitoyens aiment la musique, mais souvent n'osent pas franchir le seuil d'une salle de concert, et c'est une chose magnifique de voir la musique se faire en direct, et je crois que c'est un acte de gourmandise, d'où ce lien avec Brillat Savarin.
Souvent on se dit oui, c'est pas pour nous, il faut s'habiller, ce qui n'est plus vrai, hein, faut bien le dire, ça va être trop cher. Il y a des places maintenant, hier il y avait un concert très beau, on va en avoir un écho tout à l'heure. Moi j'ai croisé deux personnes, un couple charmant, assez tard hier soir, ils m'ont dit c'était formidable, et on a payé notre place 8 €, donc c'était pour l'Orchestre National Courte Mazur, c'est quand même, c'est presque un cadeau. Et puis il y a quelquefois des concerts gratuits aussi, il y en a même pas mal, il y a des animations en direction des jeunes, enfin on va en parler. Et nous-mêmes, nous distribuons ici des places pour les concerts et ceux de Radio France très souvent. Je propose d'entendre, pour commencer, un enregistrement qui va paraître dans 3 jours, c'est les tableaux d'une exposition de Modeste Moussorski, orchestré génialement par Maurice Ravel, et c'est l'Orchestre Philharmonique qui joue, dirigé par son chef actuel, Myung-Woon Chung. La grande porte de Kiev, des tableaux d'une exposition de Modeste Moussorski, revue par Maurice Ravel et interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Myung Woon Chung. L'orchestre part avec son chef en tournée très prochainement et assez loin, Marc.